Vous écoutez le podcast Linguisticae, le problème de l'origine du roumain quand langue et nationalisme s'affrontent. Cet épisode a été écrit par Monté de Linguisticae et nous vous souhaitons une bonne écoute. L'origine des roumanophones et donc des roumains notamment fait débat. En fait, plus que faire débat, elle est au centre d'un conflit politique et linguistique qui dure depuis belle lurette. Et ça, pour une surprise, c'est une surprise. Alors évidemment, il convient tout d'abord de faire un petit état des lieux de cette région du monde. Bien que l'on se trouve dans l'Union Européenne et que l'on y recrute nos dentistes, bien que l'on y envoie nos étudiants en santé qui veulent échapper au concours, bien que l'euro risque de s'y imposer dans un avenir proche, nous ignorons tout ou presque de la Roumanie. Cela n'aide pas, mais la Roumanie est un État qui, en tant que tel et sous ce nom, est assez récent. Ce royaume est né en 1859 de l'union de deux des trois États historiques où l'on trouvait alors le cœur des roumanophones, la Moldavie et la Valachie, le troisième étant la Transylvanie qui à cette époque était inclus au sein de la Hongrie. Aujourd'hui, la majorité des roumanophones vivent au nord du Danube, en Roumanie ou en Moldavie, cette dernière étant devenue un pays indépendant de la Russie au début du siècle, puis incluse dans le bloc soviétique jusqu'en 1990, avant de revenir indépendante en 1991. La Roumanie est constellée de minorités linguistiques historiques, notamment turques, allemandes et hongroises, et sa langue majoritaire, le roumain, est une langue romane. Une langue romane, certes, mais pas tout à fait comme les autres. Elle fait partie des langues romanes orientales, comme l'italien, et elle a conservé à travers l'histoire tout un tas de particularismes du latin disparu ailleurs, comme les déclinaisons du datif et du génitif, mais conserve quelques traces du vocatif et le genre neutre originel. Ce qui a longtemps interrogé, et ce qui vous interpelle peut-être d'ailleurs, c'est pourquoi l'on trouve aujourd'hui une langue romane dans cette zone du monde sans connexion aucune avec le reste du monde latin. Il suffit alors de regarder autour. Un océan de langues slaves, comme l'ukrainien, le bulgare et le polonais, cerne cet îlot latin perdu au large de la mer Noire. C'est lorsque l'on remonte dans l'histoire que l'on trouve un début de réponse. L'Empire romain franchit le Danube en 107, où vivent alors les Jettes et les Daces, des peuples paléo-balkaniques dont les langues sont mal connues mais sur lesquelles on a au moins deux certitudes. La première, c'est qu'ils parlaient une langue indo-européenne, qui était cependant assez éloignée des langues latines ou celtes, elles-mêmes indo-européennes. La seconde, c'est que les Daces et les Jettes n'écrivaient pas, sauf à de rares occasions et ils le faisaient alors en alphabet grec. Les Romains conquièrent rapidement la région et y fondent la province de Dacie, qui commence néanmoins à échapper au contrôle de Rome dès les années 230 et qui est définitivement évacuée entre 271 et 275. Au total donc, la Dacie ne fut tenue qu'environ un siècle et demi par l'Empire romain. Mais le fait est que, visiblement, ça a suffi à changer la langue localement, puisque le latin s'est alors imposé jusqu'à nos jours dans cette région du monde. Le problème, c'est que l'on comprend assez mal pourquoi et comment une langue latine a pu émerger ici. Surtout que le territoire roumanophone actuel est beaucoup plus vaste que cette simple province de Dacie romaine. Toute la situation linguistique entre la fin du monde romain là-bas et l'émergence de la Roumanie comme état-nation de langue latine est source de débats, d'interprétations et évidemment d'instrumentalisation pour les différents romans nationaux qui se côtoient dans les Balkans. Faisons alors un état des lieux de ce qu'on sait. La première chose que l'on pourrait noter, c'est que le roumain n'est pas la seule langue latine historique de la région. On y trouve également l'aroumain, avec un A, parlé beaucoup plus au sud. On trouve aussi le mégléno-roumain et l'istro-roumain, en tout cas s'ils ne sont pas encore morts au moment où vous écoutez ce podcast. Si je dis cela, c'est que le nombre de locuteurs pour ces deux dernières langues ne doit pas dépasser au total 4000 personnes, éclatées sur plusieurs zones qui ne sont pas toujours en contact les unes avec les autres. Compte tenu de ces éléments, on pourrait en déduire que le latin a donc survécu, depuis l'Empire romain, jusqu'à aujourd'hui dans les Balkans, ailleurs qu'en Roumanie. Pourtant, même à l'époque de l'Empire romain, le grec était privilégié dans la région comme langue véhiculaire et il se diffusait mieux que le latin. On distingue même la sphère d'influence latine de la sphère d'influence grecque par une ligne fictive appelée Jiříček, du nom de l'historien qui l'a mise en lumière en 1911. Il est donc probable que ces parlers latins soient apparus après l'Empire romain, par migration notamment. Et il est donc fortement suspecté que ces mêmes parlers latins ne soient pas la conséquence actuelle d'une romanisation locale ayant pu être opérée il y a 2000 ans. En effet, il y a plusieurs exemples dans l'histoire de peuples et de langues que l'on a pu croire comme étant dans la continuité d'un ou d'une autre, car cela pouvait avoir du sens, et que cela semblait l'explication la plus facile et la plus logique, mais qui se sont en réalité révélés distincts. Le breton, par exemple, ne descend pas du gaulois, même si les deux ont été parlés en Bretagne. Les Bretons, peuple celte de langue celte, ont migré de Grande-Bretagne autour du 5 et du 6e siècle, alors que le Gaulois, langue celte aussi, mais d'un autre rameau, avait vraisemblablement déjà disparu de Bretagne à cette époque. On pourrait en parler longuement, mais le nationalisme breton a longtemps cherché à précisément faire le trait d'union entre les Gaulois et les Bretons, comme pour attester que leur présence est antérieure à celle de la romanisation, et donc quasi millénaire. Si c'est peut-être vrai pour une partie des individus, qui adoptent les langues locales lorsqu'elles changent avec le temps, ce n'est pas vrai pour la langue bretonne qui est bien un apport des migrations des Celtes insulaires vers le continent. Pour revenir à l'aroumain, la proximité linguistique avec le roumain est très forte, et une origine commune de leur sous-famille linguistique, probablement jusqu'au milieu du Moyen-Âge, est aujourd'hui l'hypothèse la plus défendue dans le milieu universitaire. Plusieurs sources médiévales attestent de la migration de locuteurs de langue latine des rives sud du Danube vers la Macédoine, où on les trouve encore aujourd'hui. Roumains et aroumains formaient alors probablement le même ensemble linguistique vers l'an 1000. La seconde chose que l'on sait, c'est que la Dacie, bien qu'ayant été peu de temps occupée et administrée par les Romains, a été activement colonisée. La population locale historique, les Carpes, nom d'une tribu d'Aces ou Jettes, a été en partie déportée. Une autre partie des Carpes a peut-être émigré plus au nord, en dehors des limites de la province romaine. De fait, le latin a eu de bonnes chances de s'imposer dans cette région qui, et c'est important, était assez faiblement peuplée. On sait que plusieurs zones aux confins de l'Empire, dont la densité de population était faible car essentiellement composée de forêts, de marais ou de montagnes, pouvaient accueillir de nombreuses légions ou troupes militaires dont la langue véhiculaire était toujours le latin. De fait, la pression linguistique pouvait localement augmenter assez fortement. Par exemple, le long du Rhin, le sud de l'Espagne ou encore le sud du Danube comportaient une plus forte concentration de cités romaines que la moyenne du territoire, en tout cas si on exclut l'Italie, bien sûr. Si dans ces endroits, la population rurale semble demeurer strictement de culture locale, les centres urbains et les colonies fondées sont hybrides, comportant à la fois des Romains et des éléments locaux. Et avec les années, ces nouvelles cités romaines exercent de plus en plus de pression linguistique sur leurs environs. En Dacie, on trouvait donc vraisemblablement des populations daces sur les territoires ruraux à très faible densité, et un mélange de daces et de romains dans les cités où le latin devait être la langue privilégiée. Cependant, et c'est là le hic, il semblerait que la plupart des populations de langue et de culture romaine aient quitté la Dacie pour se réinstaller au sud du Danube après que l'Empire ait décidé de se retirer. Tout ceci nous emmène alors à une question. Et si le roumain était une langue qui, précisément, ne vient pas de Roumanie à l'origine? Et si la colonisation romaine de la Dacie n'avait pas de lien direct avec le fait que l'on parle aujourd'hui une langue romane en Roumanie? Le problème, c'est que cette question est fortement politique et n'a pas de réponse satisfaisante. Tout d'abord, cette région du monde manque de preuves solides quant à son histoire linguistique entre la fin de l'Empire romain et le XIIIe siècle. Un trou de quasiment 1000 ans durant lequel il est difficile de comprendre qui vivait véritablement, qui n'y a été que de passage, de combien de personnes on parle réellement. La vie nomade et les invasions brouillent les pistes, et il ne reste guère que les témoignages, la toponymie et les conjonctures pour y voir un peu plus clair. Il y a néanmoins quelques certitudes. Tout d'abord, les populations du sud Danube sont romanisées durant l'Empire romain, et l'évacuation de la Dacie renforce la présence du latin sur la région. Une perte de territoire accompagnée d'une migration de populations romanisées a en effet pu avoir comme impact de les concentrer sur une zone plus réduite, et donc d'accentuer la romanisation localement. Ensuite, le peuple qui vivait au sud Danube avant l'arrivée de Rome, les Thraces, étaient un peuple hétéroclite. Ils formaient en réalité un ensemble de peuples partageant des éléments linguistiques et culturels, et du fait de leur proximité avec la Grèce, beaucoup avaient adopté la langue et la culture grecque lorsque Rome vint les soumettre. Leur romanisation est alors rapide. À partir du IIe siècle, les Thraces sont nombreux à s'impliquer dans la vie politique, culturelle et militaire de l'Empire romain, et ce, notamment autour du Danube. Ce sont ces Thraces, ou plutôt ces Thraco-Roumains, qui sont probablement à l'origine de la langue roumaine. Et ils formaient alors vraisemblablement eux-mêmes une bonne partie des colons installés en Dacie et des militaires romains en garnison dans la région. L'origine de la langue roumaine, le proto-roumain, est alors a priori située au sud du Danube. Cela dit, comme le monde d'autrefois était bien plus mouvant qu'actuellement, les Thraco-Roumains s'étendaient probablement de manière clairsemée au-delà du Danube. Cette hypothèse repose notamment sur l'histoire religieuse locale, où le christianisme perdure en latin, et ce, malgré l'arrivée des envahisseurs venus de l'Est, qui apportent alors les Avars, les Scythes, les Sclavènes et les Hongrois en Europe de l'Est. Plusieurs Grecs attestent que l'on parle encore dans la région, au Haut Moyen-Âge, une langue romane. C'est le cas de Théophylacte Simocata, qui raconte vers 630 sa rencontre avec un nomade s'écriant « torna fratre », soit « tourne frère », du latin « torna frater ». Pour finir avec ce qui est certain, c'est que la région connaît de grands bouleversements durant tout le Haut Moyen-Âge. Les Maillards, de langue finno-ougrienne, ancêtres des Hongrois, migrent de l'Asie centrale vers l'Oural, la mer Noire puis les plaines de Pannonie, c'est-à-dire la Hongrie actuelle. Les Bulgares, qui n'étaient pas un peuple slave à l'époque, mais un peuple turc de religion tengriste, migrent d'Asie centrale jusqu'en Roumanie. Ils fondent notamment le khanat bulgare du Danube, avant de se convertir au christianisme et à la culture slave au IXe siècle. Les Slaves à proprement parler, quant à eux justement, ils s'allient aux Avars et ils débarquent dès le VIe siècle dans les Balkans. Ils s'y installent plus concrètement au IXe et au Xe siècle. De fait, la région de la Roumanie est au Xe siècle un patchwork linguistique et culturel où cohabitent plusieurs peuples de plusieurs langues différentes. Pour se représenter comment c'est possible, il faut bien comprendre qu'à cette époque, l'Europe est bien moins peuplée qu'aujourd'hui et la moitié de sa population est concentrée sur l'actuelle France, le nord de l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique et les Pays-Bas. Les régions de l'Europe de l'Est sont donc assez vides, avec une myriade de petites communautés isolées ou de cités denses reliées par quelques longues routes et chemins. Pour vous faire une idée plus concrète, à cette époque en Europe, la plupart des grandes villes du continent ne dépassent pas 10 000 habitants et aucune d'entre elles ne se situe sur la moitié est de l'Europe. Et bien sûr, il va sans dire, 90% de la population vit en dehors des villes. En Europe de l'Est, il y a donc de la place pour tout le monde, et rien n'empêche alors la superposition de plusieurs modes de vie et de plusieurs systèmes politiques sur un même territoire. Les populations roumanophones se regroupent en Valachie, on les appelle alors les Valaques, et les populations slaves se regroupent en Sclavinie, on les appellera alors plus tard les Slaves. Les Valachies et les Sclavinies sont toutes deux des communautés villageoises et agropastorales qui pratiquent alors la transhumance. Et au milieu de tout cela, on trouve également les Sicules, un peuple de langue hongroise dont l'origine ethnique fait encore débat. Comme si cela ne suffisait pas, durant les siècles suivants, des colons germains et turcs s'installeront également sur le territoire roumain, les premiers pour exploiter les mines et les seconds suite aux conquêtes ottomanes de la région. Le millefeuille culturel et linguistique est en Roumanie donc très important. Et avec l'arrivée du nationalisme et de l'idée des États-nations au XIXe siècle, conduisant à l'indépendance et au tracé des frontières des pays des Balkans, la quête des origines va devenir un débat qui n'a aujourd'hui toujours pas cessé. La constitution des cartes linguistiques et culturelles devient même un enjeu politique au XXe siècle, puisque les choix éditoriaux influent très fortement sur la visibilisation de telles communautés sur tel territoire. La réalité, c'est qu'il n'existe bien souvent, en Transylvanie notamment, au sein des mêmes vallées ou des mêmes communes, pas de communauté qui soit en situation de majorité. En 1930, une ville comme Timișoara, l'une des plus peuplées dans le sud-est, comporte par exemple 24% de Roumains, 32% d'Allemands, 31% de Hongrois et 7% de Juifs parlant majoritairement yiddish, le reste étant des Slaves de toutes les sous-familles de langues possibles, puisqu'on y trouvait aussi bien des Serbes, des Slovaques ou des Ukrainiens. Dans ce contexte, il est évident que la question de l'origine des Roumains est très politique. Elle est instrumentalisée par la Roumanie, évidemment, mais aussi par ses voisins qui ont longtemps revendiqué une partie de son territoire. Cette région voit donc exister plusieurs romans nationaux qui se contrecarrent ou qui se servent mutuellement les uns les autres, et qui tentent de répondre à cette question qui, comme on l'a vu, n'a pourtant pas de réponse simple à l'heure actuelle. Le premier roman national, évidemment, c'est celui de la Roumanie. Dans ce pays, on considère évidemment que la présence latine n'a jamais discontinué au nord du Danube, et ce depuis l'arrivée des premiers Romains durant l'Antiquité. De fait, dans cette vision de l'histoire, l'origine linguistique du roumain est située sur le territoire actuel de la Roumanie. Le scénario d'un repli sur la rive sud est balayé, car ce territoire se situe en dehors des frontières politiques et linguistiques actuelles. Ce roman national permet de défendre que la Transylvanie, le cœur de toutes les revendications territoriales, a toujours été de langue roumaine. Le second roman national, qui est celui que l'on trouve chez les Slaves du Sud, c'est-à-dire en Macédoine du Nord, en Bulgarie et en Serbie essentiellement, défend en partie cette vision pour exclure l'origine du roumain de leurs propres aires culturelles. Cette position leur est en effet avantageuse. Elle vise notamment à expliquer que les Aroumains, c'est-à-dire les minorités linguistiques dans ces pays slaves qui sont de langue latine, sont venus tardivement depuis la Roumanie, après les Slaves eux-mêmes. Ce sont donc ces Aroumains, selon leur logique, qui sont des étrangers. Paradoxalement pour les Roumains, donc, ce roman national est un formidable récit pour combattre la présence des roumanophones et des aroumanophones en dehors du territoire roumain actuel. Pourtant, je vous le rappelle, les preuves linguistiques semblent bien attester que les Roumains et les Aroumains descendent des Thraco-Roumains de Mésie, c'est-à-dire au sud du Danube, ayant migré durant l'Antiquité. Ce récit se heurte néanmoins lui-même au roman national grec, qui considère que les Aroumains sont des Grecs latinisés et non des populations extérieures venues d'un endroit situé en dehors de leur propre aire culturelle. Pour finir, le troisième roman national, qui est celui développé par les Austro-Hongrois au XIXe siècle, défend une origine du roumain au sud du Danube. Et quand on dit au sud, c'est exclusivement au sud. C'est ce qu'on appelle la thèse migrationniste, qui postule alors que les Roumains sont arrivés tardivement sur leur territoire actuel, sur leur propre territoire, et d'autant plus tardivement donc en Transylvanie. Cette vision de l'histoire permet de défendre une Transylvanie ayant appartenu en tout premier lieu aux Hongrois, qui revendiquent encore pour certains ce territoire perdu après la Première et la Seconde Guerre mondiale. Ce roman national plaît lui-même également à la Russie, qui souscrit à cette thèse, ce qui lui permet de défendre une présence russe historique et antérieure aux Roumains en Moldavie. En effet, je vous rappelle ici que le russe est désormais majoritaire sur la rive droite du Dniepr, et que cette même rive droite a demandé son indépendance et dispose du soutien de Moscou. Pourtant, qu'on se le dise, la population russe y était minoritaire il y a encore un siècle, et la région était même totalement de langue roumaine il y a deux siècles avant la mise en place d'une politique de russification intense. Aujourd'hui, en dépit du cadre de l'Union européenne censé garantir la paix et la coopération, l'origine linguistique et culturelle des Roumains est toujours débattue sur la scène politique, et elle sert de carburant aux différentes revendications territoriales. Il faut dire que dans les Balkans, où la population était très mélangée jusqu'au début du XXe siècle, la construction d'États-nations sur le modèle français révolutionnaire avec des frontières rigides, une seule langue et une seule religion imposée à tous, a conduit à de nombreuses luttes dont le souvenir est encore très vivace. Là-bas, tout le monde a des minorités de tout le monde à la maison, et tout le monde cherche alors à expliquer qu'ils étaient les premiers et que ça mérite bien un peu de respect des autres. Sauf que, et on l'a vu, dans le cas des Roumains, il est bien difficile de démêler tout ce foutoir et d'établir une filiation claire, une histoire simple, et d'attribuer une médaille au premier venu dans une zone du monde où tout le monde n'a cessé de déménager et de cohabiter. Si ce sujet m'a beaucoup intéressé, c'est parce qu'il témoigne aussi que l'histoire linguistique et politique sont souvent en rapport. Elles se nourrissent l'une et l'autre. Et elles ont une certaine dimension atemporelle. La question de savoir qui est arrivé le premier pour dire aux autres de partir, elle ne date finalement pas d'hier. La linguistique historique est hélas souvent confrontée à ces problématiques. La recherche sur ces domaines est souvent empreinte d'objectifs nationalistes, ou alors confrontée à des obstacles puisqu'en désaccord avec un récit mis en place pour justifier telle ou telle construction identitaire. D'où viennent alors les Roumains? Eh bien écoutez, lesquels? Et surtout, parle-t-on des Roumains? Parle-t-on du Roumain? Parce que le Roumain, lui, il vient probablement d'ici et d'ailleurs à la fois, en tout cas. Parce que cette question, en fait, elle se heurte à tellement d'autres. Quand est né le roumain comme langue, puisqu'il a dérivé du latin, lentement, sans qu'il ne cesse vraiment d'en être d'un jour au lendemain? On pourrait alors en déduire, tout simplement, que le roumain vient d'Italie, qu'il vient de Rome. Mais comme le latin vient lui-même de l'italique, et donc du proto-indo-européen, peut-être bien que le roumain, en fin de compte, vient des steppes ukrainiennes. Et avant cela, même si on ne peut pas vraiment le savoir, peut-être vient-il encore même d'un peu plus loin. Si le lien entre histoire des langues et histoire politique vous intéresse, j'ai sorti un livre, « Les mots sont apatrides », qui parle de ce sujet. Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez-nous sur YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. En espérant que vous avez passé un bon moment, c'était le podcast Linguisticae. Nous vous souhaitons une bonne soirée.